RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ensemble, nous recevons Pascal Le Périneau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, professeur des universités à Sciences Po à Paris et auteur de Le Populisme, collection Que sais-je, aux éditions PUF. Alors rarement, après une élection, on aura autant parlé de l'abstention, autant commenté que les résultats d'ailleurs. Comment expliquez-vous cette fois-ci le phénomène de ce triste record et le dédain, on va dire, des électeurs?
Il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur de long terme puis un facteur de plus court terme. Le facteur de long terme, c'est que, en effet, maintenant, depuis une vingtaine d'années, toutes les élections, quelles qu'elles soient, sont touchées par une forme d'apathie civique. Des élections municipales jusqu'à l'élection présidentielle, même celle de 2017, on voit que les électeurs sont beaucoup moins attirés par les urnes qu'ils ne l'étaient dans les années 60, 70 et encore au début des années 80.
Donc c'est structurel. Alors,
c'est structurel et c'est dû largement au fait qu'à partir des années 80, les Français ont essayé, après la droite, la gauche, et ils dessoulent de l'alternative politique. Ils se disent au fond, on a changé, mais ça n'a pas changé nos vies. Hein? Et la politique, peu à peu, va apparaître comme étant relativement impuissante pour changer la condition concrète des gens. Puisque sous la gauche, on découvre le chômage, voilà, ça n'a pas changé profondément la vie, les classes laborieuses, comme on disait jadis, voilà, rencontrent les mêmes difficultés qu'avant. Et donc la politique va apparaître peu à peu comme étant le domaine de l'impuissance. Et ça n'a cessé de s'accentuer, puisque maintenant, sur des grands enjeux, comme le réchauffement climatique, comme les flux migratoires, comme la globalisation économique, on peut avoir l'impression, parfois, et même la certitude, que le pouvoir national n'a plus du tout le pouvoir qu'il avait. Ça, c'est le facteur de long terme pour éclairer cette abstention absolument astronomique. Le deuxième facteur, c'est un facteur de plus court terme, qui est, en fait, que l'année que nous venons de vivre, l'année Covid, a changé en fait profondément les choses. Vous savez, le monde d'après ne va pas être comme le monde d'avant. Ça ne sera pas le retour au monde d'avant. Dans le domaine politique, comme dans bien d'autres domaines. Qu'est-ce qui s'est passé pendant un an? Pendant un an, les Français ont été confinés. Ils ont été rabattus, de fait, sur leurs espaces privés. On était très préoccupés, à juste titre, par notre sort sanitaire, le sort de nos enfants, le sort de nos parents, le sort de nos amis. C'était les espaces privés qui nous ont monopolisés. On était reclus chez soi, dans son espace privé. Et la politique, ça se passe ailleurs. La politique, c'est dans l'espace public. Et il faut maintenant se déconfiner politiquement. Ça demandera du temps. Et peut-être que ça laissera des traces, déconfiner les esprits, retrouver le sens du débat public, aller à nouveau dans des meetings, aller dans des bureaux de vote. Ça n'était pas si évident que cela, dimanche dernier, pour beaucoup de gens, d'aller dans des bureaux de vote qui peuvent être encore considérés comme des lieux où le virus ou ses variants peuvent circuler.
Pascal Périneau, cette impression, enfin, cette explication de long terme que vous donniez, qui, au fond, on peut changer les politiques, mais on ne peut pas changer de politique. C'est un peu ce que vous avez dit. Est-ce que, en toute logique, ça ne devrait pas profiter aux extrêmes? Parce que ça pourrait conduire les électeurs à se dire, bon, on a essayé l'alternance gauche-droite, droite-centre, centre-gauche, mais on n'a pas essayé extrême-gauche, extrême-droite.
Bien sûr. Ça peut profiter aux extrêmes, et ça a déjà profité aux extrêmes. Mais, depuis le début, hein, depuis les années 90 jusqu'à nos jours, vous apercevez, en effet, que cette désillusion, ces déçus de la politique, vous savez, on parlait dans les années 80 des déçus du socialisme, mais des déçus plus largement de la politique. Si vous voulez, il y a deux stratégies pour en sortir quand vous êtes déçu. Vous êtes déçu et en colère. Et là, vous allez dire votre mot, vous allez parler haut et fort au travers de votre bulletin, vous allez choisir Mélenchon, vous allez choisir Marine Le Pen, vous allez choisir éventuellement Lutte ouvrière ou que sais-je. Si, en revanche, votre colère est un peu plus apaisée, qu'est-ce que vous faites?
Vous êtes vraiment abattu.
Voilà. Ou abattu, déprimé. Vous savez, il y a beaucoup de déprimes en ce moment, hein, et de déprimes politiques aussi. Eh bien, vous vous retirez du jeu. vous dites au fond, ça n'est pas pour moi. Ça ne sert à rien.
C'est le à quoi bon.
Voilà, c'est le à quoi bon. J'en ai rien à foutre. Hein? Voilà. Ouais. Je crois que c'est le patron d'Ipsos qui avait écrit
livre.
Mais j'en ai rien à foutre et vous vous retirez du jeu. Et donc là, vous avez une abstention qui a une dimension protestataire. C'est pas de l'indifférence, mais qui a une dimension protestataire qui ne cesse de croître.
Alors, ce qui est important, c'est que lorsqu'on voit cette forte abstention, on a quand même tous commenté les résultats ce dimanche. Est-ce que la forte abstention n'est pas en train, on va dire, de fausser l'état de l'opinion?
Alors, fausser qu'en partie, parce que c'est tout de même des millions de Français qui se sont prononcés dimanche, on l'oublie. Hein, parce qu'en effet, ça aurait été beaucoup mieux si en effet on avait une participation de 60% et non pas une abstention à 66%, ça c'est certain. Mais voilà, ça ne fausse que partiellement. Mm-hmm. Certes, on est à peu près persuadé, d'après les enquêtes, que les électeurs du RN se sont moins mobilisés que les autres. Donc le RN était certainement un peu sous-évalué. Même chose pour LFI. Hein, les partis protestataires. Alors ça tient aussi au profil sociologique de ces électeurs. C'est des électeurs plutôt de couche populaire pour le RN, dont on sait qu'ils sont plus touchés par l'abstention.
Et on sait. Et pourtant, on a longtemps dit, me semble-t-il, que lorsqu'il y avait une faible mobilisation pour les élections, ça profitait aux extrêmes parce que eux avaient un électorat très engagé.
Non.
Alors est-ce que c'est en train de changer ou est-ce qu'on se trompait en disant ça?
Non, on se trompe largement en disant cela parce que quand vous regardez les très bons scores du FN. Jadis, c'est du RN aujourd'hui, c'est enregistré à la présidentielle. Et la présidentielle reste tout de même l'élection qui mobilise le mieux ou le moins mal. Disons le mieux encore. Hein. Donc, il y a bien, si vous voulez, des allées et venues entre la protestation et le vote protestataire. Mais pour les autres forces, ça ne bouleverse pas le jeu. Pour l'équilibre gauche-droite, par exemple, ça, je ne crois pas que cette très forte abstention a bouleversé profondément
le jeu. Mais est-ce qu'on peut en tirer les conséquences, les réflexions que la droite est en train de reprendre des couleurs, de se réveiller, et que ce clivage gauche-droite est en train de se réinstaller, c'est-à-dire une réémergence du vieux monde qu'on avait enterré avec le macronisme?
Ce dont on est sûr, c'est que le nouveau monde n'a pas pris la place de l'ancien monde. On est dans une situation où le nouveau monde a beaucoup de mal à s'inventer.
Mais a-t-il vraiment existé, le nouveau monde?
Oui, il existe avec le phénomène Macron. Il existe en 2017, le nouveau monde.
Mais est-ce que ça fait un monde,
Macron? Le problème, non, certainement pas. Le problème de le qualifier, ça c'est autre chose. Mais il y avait bien quelque chose de nouveau qui se passait, un homme venu de nulle part, apparemment, qui disait, voilà, la gauche et la droite, j'en ai rien à cirer, le fait de se présenter, ça sert à rien aux élections locales avant d'être élu, etc. Bon, voilà. Donc, il y avait bien un phénomène nouveau, mais le nouveau n'a pas pris la place du neuf. C'est pour ça que nous sommes en crise. Vous savez, il y avait jadis un marxiste italien très connu qui s'appelait Gramsci. Antonio Gramsci, qui disait, qu'est-ce que c'est que la crise? C'est quand le vieux meurt et que le neuf hésite à naître. Eh bien, le vieux ne meurt pas tout à fait aujourd'hui. Il fait de la résistance, il est résilient, parce qu'il a deux siècles de vie derrière lui, le clivage gauche-droite, et le neuf hésite vraiment à naître. Qu'est-ce que c'est que la République en marche dans les territoires? Mais la plupart du temps, ça n'est à peu près rien.
Hein? Alors, vous citiez Gramsci, mais Gramsci disait aussi qu'on gagne l'élection lorsqu'on a d'abord gagné la bataille des idées. Or, Marine Le Pen, on avait le sentiment, en tout cas, que ses idées avançaient, que c'était un peu le rouleau compresseur. Est-ce que vous vous souvenez de cette émission où Gérald Darmanin l'avait traitée de molle, qu'elle était trop molle? On avait le sentiment qu'elle s'était un peu recentrée. Est-ce que, dans le fond, ses électeurs aiment la radicalité et qu'elle s'est trompée en voulant être normale, normalisée?
C'est un problème pour le Front National devenu Rassemblement National et pour Marine Le Pen. C'est une puissance. C'est une puissance. Mais c'est une puissance solitaire. Et donc, elle ne peut, avec le mode de scrutin majoritaire à deux tours, qui est celui de la République, elle ne peut que chercher des alliés. Vous cherchez des alliés, vous vous adoucissez. Mais faut convaincre ses propres électeurs. Donc faut savoir se durcir. Hein? Et en particulier avant un premier tour. Or là, avant le premier tour, elle était toute gentille, toute douce.
Oui.
Voilà.
Enfin, ça marche pas.
C'était nous, la force tranquille. Je l'ai vue sortir, en effet, au bras de Mariani, disant, bah, c'est nous, la force tranquille. Et les électeurs du Rassemblement National, ils aiment les plaies et les bosses aussi. Ils aiment les cris. Ils aiment les forts en gueule. Hein. Et là, en effet, elle paye peut-être, mais c'est une tension qu'elle est obligée de la gérer, de tenir les deux bouts de la chaîne. Hein. Et c'est très difficile de tenir les deux bouts de la chaîne.
En même temps aussi. Mmh.
Ce sont ses limites. Elle est en train de
rencontrer un peu, quoi.
Ses limites, bien sûr. Surtout quand on s'approche d'un scrutin où on se dit, vous avez beau être, par exemple, proche du Rassemblement National, mais vous allez dire, en votant, là, je confie les clés de la région, un budget éventuellement de 2 milliards et demi, à un leader du Rassemblement National que je connais mal, et à des gens que je connais encore plus mal, qui n'ont pas fait leur preuve sur le terrain. Vous pouvez, même si vous avez une proximité idéologique, hésiter. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et en tout cas, en tant que, si vous voulez, influence idéologique, aujourd'hui, on parle de droitisation. La droitisation, faut pas la confondre avec la lepenisation. Hein ? Ouais. Il y a une droitisation en France, c'est évident. Il y a de plus en plus de Français qui se sentent de droite. Il y a une manière de prendre les problèmes qui se sentent de droite. Et ça explique aussi, hein, indépendamment du fait qu'ils avaient beaucoup de positions de sortant, ça explique aussi la très bonne performance de LR.
Alors certains aujourd'hui à droite comme à gauche d'ailleurs voient dans les résultats de ce premier tour et probablement d'ailleurs du deuxième tour parce qu'on voit à peu de choses près ce que ça va donner, l'idée que le duel Macron-Le Pen qu'on nous annonce comme étant une évidence depuis maintenant déjà un an ou deux, finalement pourrait s'éloigner et qu'une autre offre pourrait surgir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce qu'ils vont un peu vite en besogne, sachant quand même, vous l'avez dit il y a un instant, que l'élection présidentielle est un rendez-vous très particulier.
Très particulier. Il ne faut pas confondre, en effet, présidentielle et régionale, présidentielle et municipale. Mais voilà, c'est l'élection qui, à 8 mois de l'élection suprême, ces élections régionales et départementales, donne une idée un peu de des rapports de force, de l'état du pays. Et l'état du pays n'est pas si favorable qu'on voulait bien le croire pour La République En Marche. Alors certes, Macron dit, à la limite, il laisse entendre parfois qu'il n'en a pas besoin.
Mais ils font le plus mauvais score de tous.
Ils font le plus mauvais score de tous. Et même dans certaines régions, comme les Hauts-de-France, ils sont carrément humiliés.
Exactement.
5 ministres sur le terrain, le président qui va dans la région, et on se retrouve avec 8% des suffrages exprimés. En effet, c'est un piège.
Faut qu'il en tire une leçon.
Ah oui, il faut qu'il en tire une leçon.
Mais de quel ordre?
Il faut qu'il entende davantage, mais c'est difficile pour un président qui considère que le pays se gère par en haut. Hein? C'est la fameuse présidence jupitérienne. Il faut qu'il entende la voix des territoires. Il faut qu'il entende la voix de ses élus locaux auxquels il a prêté jusqu'à maintenant une oreille très distraite et pas très convaincue.
Pourtant les grands débats, on l'a vu longuement. Parler peut-être plus qu'écouter.
Voilà.
D'ailleurs. Mais c'est quoi ça? Bon, voilà. Non, mais bon, finalement, j'ai répondu à la question.
Vous avez répondu en posant la question à juste titre. Il parlait beaucoup et voilà, il avait un décor. Mmh. Ses maires étaient utilisés comme un décor. Et vous savez, beaucoup de maires de petites et de moyennes communes l'ont ressenti comme tel. Les maires qui représentent tellement. Vous savez, la France, les Français, ils ont deux patries. La patrie nationale et les petites patries qui sont les communes. C'est très important, les Français. Hein? Et ils ont eu l'impression que, oui, au niveau national, le président en particulier représentait bien, par exemple, la France à l'étranger. Mais que l'écoute de ces petites patries, il n'en avait à peu près rien à cirer. Parce que c'est pas son monde, ça n'est pas son univers. Alors il cherche à envoyer maintenant des signaux, parce qu'il s'est rendu compte tout de même au bout de 4 ans que c'est difficile de gagner sans les territoires ou même contre les territoires. Donc il fait un effort, Est-ce que ça sera suffisant pour qu'il puisse s'enraciner davantage dans l'esprit des Français? Attention, parce que des alternatives, c'est ce dont on parle, sont en train d'apparaître.
Alors, Emmanuel Macron a été élu en 2017 avec un parti qu'il a créé ex nihilo, un personnage qu'on ne connaissait pas. Donc, un peu élu sur l'idée du jeune Damoiseau qui allait renverser la table. Aujourd'hui, il a un bilan, mais il reste, l'élection reste, on vote pour une personnalité. Donc, est-ce que dans le fond, on peut imaginer Emmanuel Macron pleurer dans son bureau avec une boîte de Kleenex parce qu'il il n'a pas fait un bon score à La République En Marche. Est-ce que dans le fond, vous disiez il en a, tout à l'heure l'expression « rien à cirer », est-ce qu'il n'en a rien à cirer? Alors bien sûr, ça fait mauvais genre, ça aurait été mieux d'avoir un bon score, mais est-ce qu'il ne joue pas tout sur sa personne?
Alors j'exagère disant qu'il n'en a rien à cirer, mais je ne crois pas que ça soit une préoccupation majeure. qu'on le retrouve d'ailleurs dès le lendemain avec le patron de LVMH, en train d'inaugurer un lieu superbe à Paris, montre...
Ou avec vous voyez, Justin Bieber,
voilà, voilà.
Un chanteur...
Exactement, Bieber. Montre que, voilà, il n'est pas tout à fait préoccupé par le message que les Français viennent d'envoyer. Enfin, les Français qui sont allés voter, qui sont même plusieurs millions, ont envoyé la veille. Hein. Donc, ça montre bien, en effet, qu'il y a, voilà...
Oui, il montre que...
Quelque part, voilà...
Il n'en a cure, hein,
il n'en a cure, il est un peu dans un autre monde.
Mais vous disiez...
Mais ouais. Vous dites la personnalité. Oui, mais il faut que la personnalité... La personne même, ouais. Incarne. Ça ne suffit pas. Dans l'antimacronisme, qui est devenu une réalité aujourd'hui dans certains milieux, il faut faire attention. C'est la personne qui énerve. Ouais. C'est la personne qui exaspère. C'est ce qu'il dit qui exaspère. Donc, attention, est-ce que les ressources purement personnelles suffisent? Non, même pour De Gaulle. Les ressources purement personnelles ne suffisaient pas.
Vous disiez il y a un instant, Pascal Perrineau, le président doit entendre parce que des alternatives semblent se présenter. Alors, deux questions. D'une part, est-ce que qui sont ces alternatives, ou quelles sont-elles plutôt? Et d'autre part, est-ce que cependant, aujourd'hui, le duel Macron-Le Pen au deuxième tour reste l'hypothèse de loin la plus probable?
Alors, sur la première question, il y a une famille qui a montré au municipal, qui a montré au régional, qui a montré au départemental, on n'en parle pas du tout, mais pour, vous savez, quand on est en région, c'est important, les départementales et les cantons, qui a montré quelle était la première famille en France. Hein, à peu près 29% des suffrages exprimés sont les Républicains et les alliés du centre, Nouveau Centre et UDI. Ça veut dire quelque chose, parce que à trois reprises, municipale, départementale, régionale, c'est une famille qui a une vraie existence. Cependant, ils ont une vraie existence, et ils l'ont montré encore hier, ils ont plusieurs chefs. Or, à droite, il n'y en faut qu'un. Et puis, de toute façon, à la présidentielle, quelle que soit la famille, il n'y en faut qu'un, à la fin des fins. Et donc, les difficultés commencent pour eux, c'est de trouver à la fois... ce que le président du Sénat, Gérard Larcher, appelle le système de départage, c'est-à-dire un système qui n'est pas les inconvénients de la primaire, qui crée du clivage, on l'avait vu.
Ce serait quoi ce système de départage?
Alors, ce système de départage, ça peut être une primaire à un tour, hein, où il n'y a pas la bipolarisation du second tour qui fracture et laisse des traces. Ça peut être aussi demander son avis à des populations différentes, pas simplement les sympathisants, mais aussi les élus locaux. Les élus locaux, vous savez, c'est des dizaines de milliers d'élus locaux, les centristes, les LR, les divers droites. Hein, et ils ont peut-être leur mot à dire, parce qu'ils représentent vraiment ces territoires. Donc on peut imaginer des modes de sélection peut-être un peu plus intelligents, habiles, comme on dit aujourd'hui, que la primaire. Ouais. Donc, ça, c'est possible. Ouais. Hier, on a vu aussi de véritables leaders, en termes d'opinion, mais aussi d'électorat, apparaître. Ouais. Le score de Xavier Bertrand est en particulier un score impressionnant.
On a terminé, vous pouvez me dire oui ou non, si le Macron-Le Pen reste le plus probable?
C'est possible, c'est pas forcément le plus probable, pour plusieurs raisons.
Qu'on n'a pas le temps de développer. Voilà. Malheureusement, c'est pour ça que je vous demandais une réponse archi-synthétique.
Un an avant, on se trompe en général toujours.
Merci beaucoup. Merci.